with no big red sign to stop me. No traffic jam delay. Thank my stars forever and green. You have no idea what it means. No, no. Well, to a man who's always traveling, who's seen the things that I've seen, I don't know what's yet to come. Not sure of anything that I've done really makes that much difference. Well, I hope it has for some. With no big red sign to stop me, no traffic jam delay. Well, I was driving over the moon, oh, in my big hot air balloon, oh, floating high up in the darkness. Oh, I promise that I'll make it to you very soon. Something special happened today.
Check, check, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça.
Il est 7h à Paris et Yaoundé 9h30 à Téhéran. Merci d'écouter RFI. Et bonjour Nemo en Peace.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
En Iran, les Khamenei, guides suprêmes de père en fils.
Alors qu'Ali Khamenei lui-même avait toujours refusé que son fils lui succède, c'est bien Mojtaba qui a été désigné par l'Assemblée des experts à 56 ans, celui qui est réputé proche des gardiens de la révolution et des Basidji, mais aussi du monde des affaires, devient le nouvel homme fort de la République islamique. Une annonce tard dans la nuit qui n'a pas enrayé les échanges de tirs au Moyen-Orient, des frappes israéliennes sur l'Iran et le Liban, bien sûr, mais aussi sur l'État hébreu et les monarchies du Golfe. Reportage à Tel Aviv et à Dubaï où les conséquences du conflit se font ressentir. Et puis dans le reste de ce journal, ce revers léger, mais revers tout de même pour les conservateurs allemands lors d'un scrutin test dans le sud du pays. Un mauvais signal pour le chancelier Friedrich Merz en cette année électorale très fournie.
En Iran, un Khamenei peut en cacher un autre.
Un peu plus d'une semaine après la mort du père Ali, au premier jour des frappes israélo-américaines en Iran, c'est le fils Mojtaba qui lui succède comme guide suprême de la République islamique. Il a été désigné par les 88 membres du clergé chiite qui composent l'Assemblée des experts. Mojtaba Khamenei, réputé proche des gardiens de la Révolution, eux qui lui ont, dans la foulée, prêté allégeance. Son portrait avec Nicolas Falaise.
Comme son père, il arbore le turban noir des Seyyeds, les descendants du prophète dans l'islam chiite. Mojtaba Khamenei, 56 ans, barbe grise, est membre du clergé chiite, mais il a aussi un passé militaire. Il n'avait pas encore 20 ans lorsqu'il a combattu pendant la guerre Iran-Irak comme tant de jeunes Iraniens de sa génération. La suite de son parcours s'inscrit dans le sillage de son père, guide suprême de la République islamique. Mojtaba Khamenei est considéré comme proche des milieux sécuritaires, gardien de la révolution et Basidji. Selon plusieurs spécialistes de l'Iran, il est également proche des milieux affairistes qui se sont enrichis à l'ombre du régime. Les Khamenei, guides suprêmes de père en fils, paradoxe d'une république islamique née du renversement d'une dynastie où le pouvoir se recevait en héritage.
Nicolas Falaise, l'armée et la police iraniennes ont également promis d'obéir à Mojtaba Khamenei quand les Houthis du Yémen ont salué cette désignation. Téhéran, qui après l'annonce n'a pas tardé à envoyer une nouvelle salve de missiles vers Israël, la télévision d'État montrant un projectile sur lequel était inscrite la phrase « Sous ton commandement, Seyyed Mojtaba », référence religieuse chiite.
L'Iran, une nouvelle fois frappé alors que la guerre entre dans son 10e jour.
L'armée israélienne a dit frapper des infrastructures du régime au cœur du pays, notamment à Téhéran, un conflit qui risque de prendre encore beaucoup de temps, lançait hier le chef d'état-major Eyal Zamir en réponse aux gardiens de la révolution qui assuraient eux pouvoir tenir au moins 6 mois face à Israël et aux États-Unis.
Le Liban touché aussi cette nuit.
Et cette nouvelle explosion. explosions entendues dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, le groupe chiite pro-iranien. Vive tension également dans l'est du pays, non loin de la frontière avec la Syrie, après une nouvelle incursion de l'armée israélienne via des hélicoptères. De violents combats ont été répertoriés. Ce week-end, déjà, un commando israélien avait tenté, sans succès, d'y récupérer le corps d'un aviateur du nom de Ron Arad, capturé en 1986. Et puis Human Rights Watch qui accuse l'État hébreu d'avoir illégalement utilisé du phosphore blanc sur des zones résidentielles du sud du Liban. C'était selon l'ONG mardi, au lendemain donc de l'entrée dans cette guerre du Hezbollah.
Un conflit meurtrier qui prendra fin sur décision de Donald Trump et pas autrement.
Pas autrement, mais le président américain le promet, ce sera un choix mutuel en concertation avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'État hébreu et ses habitants qui continuent de vivre au rythme des alertes aériennes. Certains d'entre eux ont perdu leur logement dans des bombardements iraniens. C'est le cas de Dana, cette habitante de Tel Aviv, qui a rencontré notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
Le temps d'une cigarette, en pantoufle, devant un hôtel moderne du centre-ville, Dana nous raconte la frappe qui a détruit sa maison au premier jour de la guerre.
On a donc été évacués vers cet hôtel. On y reste pour l'instant en attendant d'avoir des nouvelles.
Depuis 10 jours maintenant, elle vit dans cet hôtel, aidée par la municipalité.
On a reçu beaucoup de soutien ici à l'hôtel. Des gens de la municipalité sont venus nous apporter un soutien moral précieux. Mais surtout, nous sommes heureux d'être en vie et indemnes physiquement. Psychologiquement, nous sommes encore un peu sous le choc, mais ça ira.
Dana vient de reprendre à distance son travail dans la publicité, sans savoir exactement quand elle pourra retourner chez elle, un prix que la jeune femme de 28 ans se dit prête à payer.
Je pense que finalement, ça nous dépasse tous. C'est un petit prix à payer pour le peuple iranien et pour la paix en Israël. C'est triste et difficile que ce soit arrivé, mais au final, c'est pour une meilleure cause et on surmontera cette épreuve. On en ressortira plus fort.
Environ 300 personnes ont, comme elle, perdu leur logement dans cette guerre et sont logées en ce moment dans des hôtels à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem. Des familles qui cherchent en ce moment un nouvel appartement entre les alertes aériennes. Julien Chavanne, Tel Aviv, RFI.
Voilà, l'Iran riposte et s'en prend aussi aux monarchies voisines du Golfe.
Le Koweït, le Qatar, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, tous disent encore avoir été visés cette nuit. L'Arabie Saoudite ou Washington exigent le départ de son personnel diplomatique. Riyad condamne à l'instant des attaques répréhensibles de la part de Téhéran. Elles sont irresponsables, disait hier la Ligue arabe réunie en urgence au Caire quand le président français Emmanuel Macron a demandé à son homologue iranien Massoud Pezeshkian de stopper ces frappes.
Conséquences diplomatiques donc, Nemo, conséquences humaines avec un bilan de 16 morts dont 8 civils dans le Golfe et conséquences économiques.
Le blocage du détroit d'Ormuz pèse sur les exportations de gaz et de pétrole mais aussi sur les importations pour ces pays du Golfe qui font venir la majorité de la nourriture consommée localement. Reportage à Dubaï de Guillaume Deltey.
Dans ce supermarché du centre de la ville, les pêches viennent d'Afrique du Sud, les avocats d'Australie, les oranges des États-Unis et les bananes d'Équateur. Aux Émirats Arabes Unis, 90% de la nourriture est importée, mais cela n'inquiète pas cette jeune femme installée dans le pays depuis 3 ans.
Je vais au supermarché et je constate qu'il y a des rayons de bouteilles d'eau qui sont vides. Mais quand je vais promener mon chien vers 1h du matin, je vois que les employés sont en train de recharger. Ils apportent de nouvelles bouteilles d'eau, de nouvelles boîtes de conserve.
Depuis 9 jours, les autorités émiriennes s'emploient à rassurer les habitants. Ce dimanche, le ministre de l'économie et du tourisme s'est rendu au principal marché de fruits et légumes de Dubaï. Dans un message diffusé sur les comptes officiels des autorités, il a affirmé que malgré la guerre, le commerce avec le reste du monde se poursuit.
Aujourd'hui, nous avons constaté un afflux important de denrées alimentaires en provenance du monde entier. Les denrées alimentaires essentielles dont ont besoin les consommateurs aux Émirats Arabes Unis sont disponibles.
Et les étals remplis, les rayons achalandés semblent convaincre. Tout va bien, c'est comme avant, dit ce Pakistanais. Et l'homme a du recul, cela fait 30 ans qu'il vit à Dubaï. A-t-il adapté son mode de consommation? Fait-il des réserves? C'est pareil, répond-il encore souriant. Un peu plus loin, un commerçant d'épices affiche la même confiance. Il n'y a pas de pénurie, assure-t-il. Il s'interroge uniquement sur la capacité à renouveler ses stocks de marchandises iraniennes. Guillaume Détail, Dubaï, RFI.
Et dans ce contexte, les marchés financiers paniquent et s'emballent, flambée des prix des barils de pétrole, plus 30% pour le WTI, plus 27% pour le Brent, mais c'est un petit prix à payer pour la paix et la sécurité des États-Unis et du monde, c'est ce que dit Donald Trump. Notre dossier ce matin sur les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient, rendez-vous avec Arthur Ponchelet dans le prochain journal dans une heure.
Dans le reste de l'actualité, un scrutin test réussi pour la gauche en Colombie.
Oui, quelques semaines avant une présidentielle où ne pourra se représenter le chef de l'État, Gustavo Petro, ce sera le 31 mai. On votait pour les législatives ce dimanche, la quasi-totalité des bulletins a été dépouillée. Les résultats partiels donnent la gauche majoritaire au Congrès.
Autre scrutin test, cette fois-ci en Allemagne, mais qui a tourné à l'échec pour le chancelier Friedrich Merz.
Défaite de peu, mais défaite tout de même pour la CDU. Les conservateurs arrivent en deuxième position, juste derrière les écologistes dans le Bade-Württemberg, historiquement riche, mais qui traverse une crise de l'industrie. Mauvais signal donc pour le chancelier allemand en cette longue année électorale. Pour autant, la coalition qui les associe aux écologistes devrait se poursuivre. RFI Berlin, Pascal Thibault.
L'affaire paraissait entendue. Après 15 ans, la CDU de Friedrich Merz était sur le point de reprendre un fief historique, le Bade-Württemberg, dirigé depuis 15 ans par un écologiste. Mais l'énorme avance des chrétiens-démocrates a fondu au soleil et la CDU termine en deuxième position, derrière les Verts. L'année électorale 2026, avec 5 scrutins régionaux et des municipales, commence donc mal pour Friedrich Merz, qui aurait bien eu besoin, avec des sondages à volo, d'engranger un succès. Les sondages sortis des urnes hier montrent la profonde déception des électeurs à l'égard de Merz, qui aurait beaucoup promis et pas assez tenu. Même frustration à l'égard des sociaux-démocrates, alliés du chancelier, qui ont subi hier une humiliation historique avec 5,5% des voix. Une sanction douloureuse pour un SPD meurtri qui espère dans 2 semaines sauver les meubles en défendant son fief en Rhénanie-Palatinat. Les écologistes l'emportent certes, mais avec un candidat au test très vert pâle. C'est avant tout l'extrême droite qui double son score à près de 19% et qui est la grande gagnante de la satisfaction des Allemands. Pascal Thibault, Berlin RFI.
L'actualité du continent africain, en bref, c'est vives réactions au Gabon. Quelques jours après l'entretien accordé par Sylvia Bongo à nos confrères de France 24, l'ancienne première dame assure avoir été torturée aux côtés de son fils dans les sous-sols de la présidence de la République. Hier, le ministre de la Communication, Germain Biaangio, lors d'une conférence de presse, a condamné au nom du gouvernement gabonais des allégations diffamatoires et assure que l'épouse d'Ali Bongo et son fils, Nouredine, ont bénéficié d'un traitement conforme au respect de la dignité humaine. Vous en lisez plus sur notre site internet rfi.fr.
Et puis Nemo, reportage au Cameroun pour refermer ce journal.
Oui, auprès de ses étudiants déçus après cette annonce venue du Royaume-Uni qui a suspendu la délivrance de visas étudiants aux ressortissants de plusieurs pays, Cameroun donc, mais aussi Soudan entre autres. Le ministère britannique de l'Intérieur justifie cette décision par les demandes d'asile en hausse chaque année. Richard Onanena a tendu son micro à des jeunes parfois dépités.
Mispa, étudiante en communication à l'université de Yaoundé 2, avait toujours rêvé de se perfectionner au Royaume-Uni. Avec cette suspension, c'est son rêve qui s'effondre.
J'ai toujours été à la recherche de meilleures opportunités et le Royaume-Uni était mon premier choix. Maintenant que cette porte est fermée, je ne sais pas ce que je ferai. Pour le moment, je suis confuse.
L'annonce de la suspension a également douché les ambitions de Maxwell. Licence en poche, il s'apprêtait à s'inscrire en master dans une université anglaise. Aujourd'hui, il croise les doigts pour un retour à la normale.
J'espère vraiment que le gouvernement britannique va revenir sur sa décision. Quelque chose doit être fait, notamment pour nous les Camerounais. Pareil pour les autres.
La vie, c'est épatant. Tout doux, tout doucement. Tu joues tout doucement. Comme ça. La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite. Vous obéissez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés qui ne savent pas aller.
le son se propage dans l'air sous forme d'ondes de pression. Pour devenir une information intelligible par le cerveau, ces ondes mécaniques doivent être converties en signaux électriques, appelés aussi influx nerveux. C'est l'oreille qui joue ce rôle.
Principe actif, 102.4 FM.
Toi, tu parleras quand on te le dira. J'ai faim. J'ai faim. manger, faut acheter des choses. Pour acheter des choses, faut de l'argent. T'as de l'argent, toi ?
Non, non.
Alors tais-toi.
C'est facile.
J'ai toujours plus ou moins perdu mon temps. C'est facile.